Salut tout le monde, bienvenue à votre moment intellectuel de la semaine. Parce que le reste du temps, ben, on fait de la politique, puis on n'est pas généreux. Puis là, cette semaine, on se force pour être généreux, puis faire semblant qu'on fait pas de politique, même si c'est de l'économie. Puis... Parce que Vincent, c'est un académique, tu sais. Il se mêle pas de ça, la politique, c'est trop bas pour lui. Fait que...
Oui, absolument. C'est vrai que c'est trop bas pour moi. C'est trop bas pour tous.
Mais attends, t'as peu là. Faut dire des vraies choses. Là. Il s'en mêle pas, sauf après l'élection, quand il va avoir une course à la chefferie au Parti libéral.
C'est vrai.
Quand même, là, faut pas induire les gens d'erreur. C'est pas fin. Là.
Ok, j'ai vu que Dominique Anglade avait une valeur de 12 millions personnels. Je me suis réellement demandé ce qu'elle faisait là.
Ben en fait, dans les détails, là, je n'ai pas lu l'article au complet, là, j'ai juste vu le titre. Mais de ce que j'ai vu, ça inclut les avoirs de son conjoint. Ça dépend. Je pense pas que l'avoir d'un conjoint est si pertinent que ça. À l'équation. C'est-à-dire que si tu maries quelqu'un qui est très aisé, ça ne veut pas dire que c'est ton actif ou c'est ton flot de revenus. Oui, tu as probablement un confort plus élevé, mais ton conjoint, il peut te dumper là.
Yep. Oh, ouais, ben, pas nous autres personnellement, mais il y a déjà eu le même genre de débat dans le temps avec Pauline Marois.
Là. Ou pas Paul Arcand, mais Pierre Arcand.
Pierre Arcand.
C'est Pierre Arcand, qu'est-ce qu'il faisait là encore? Lui, il a arrêté. Hein? Il se présente pas à cette élection.
Non, il ne se représente pas.
Ça
te tenterait-tu de te représenter, toi? Ils l'ont crissé en dessous de l'autobus à cause d'un voyage.
Hey, le gars, il valait des dizaines de millions de dollars. Qu'est-ce qu'il faisait là, sérieusement?
Peut-être qu'il se voyait chef un jour.
Il l'a été, mais juste par intérim.
Dominique est chef présentement, puis on comprend pas ce qu'il fait là. Ouais. Pensons à l'humain. Je comprends que c'est son narcissisme et tout ça, là, mais elle n'a pas de fun, la fille. Là. Elle a zéro fun présentement. Là.
Écoute, ben, c'est dur d'avoir du fun quand ta campagne. Moi, je me souviens de politiciens qu'on a rencontrés qui ont aimé leur campagne électorale parce qu'ils sentaient qu'ils avaient le vent dans les voiles. Mais si ce que tu fais, c'est faire du rameur à contre-courant dans une rivière à haut débit, ben c'est t'as pas de fun.
Non.
Présentement, c'est ça que Dominique Anglade a l'air de faire. C'est du rameur à contre-courant. Puis, crois-moi, c'est un miracle, en fait, je trouve, avec la difficulté qu'elle a, qu'elle réussisse à conserver autour disons, 17 à 20% dans lequel elle semble naviguer. Je suis vraiment impressionné pour sa campagne. Ça lève vraiment pas, là.
Ouais, ben merci au comté de Montréal. C'est parce qu'en dehors de ça, il y a zéro opportunité d'avoir un député.
Ben, la bonne nouvelle pour elle, c'est mec, elle démissionne puis que Vincent prenne sa place. Elle est quand même assise sur un petit pactole. Là, elle va bien vivre.
Là. Oui, mais au pire aussi,
elle va avoir été complètement humiliée, mais elle va bien vivre.
Écoute, non seulement ça, mais ce qu'on pourrait faire, c'est faire deux courses à la chefferie simultanées. Une au Parti libéral, puis une où je suis candidat aussi au Parti québécois. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on les fusionne ensemble, on en fait le Parti libéral souverainiste du Québec. comme ça, on est sûr de clarifier les choses pour tout le monde.
Puis dans la course à la chefferie libérale, ben là, les électeurs vont avoir à choisir entre toi et Marois Risky. Et dans la course péquiste, ça va être entre toi et Martine Ouellet, probablement.
Ah, ça serait je serais tellement content, là.
On en parle presque pas d'habitude. On parle tout le temps de ça dans les campagnes électorales, advenant la défaite de qui est-ce qui va remplacer, blablabla. Tu sais, on ne vaut pas nécessairement de changement à QS ou au PCQ, bien évidemment. Mais c'est vrai, tu sais, on n'a pas commencé à spéculer du tout sur Anglade puis sur PSPP, ce qui est quand même surprenant parce que d'habitude, ça commence assez tôt, ces spéculations-là.
Ben écoute, je te dirais que dans les derniers jours, juste par plaisir, j'ai été voir les littératures sur les sondages. Ça ne parle pas directement à ce que tu dis, mais les sondages ont généralement, quand tu regardes leur dernière prédiction et le résultat électoral, ça dépend vraiment. Ce n'est pas tant la méthode d'échantillonnage qui est problématique. Des fois, ça arrive. Là, tu peux avoir l'histoire du Reader's Digest en, en 1936, ou non, c'était Harper's. Il y avait un magazine aux États-Unis qui avait essayé de faire un sondage, puis il prédisait une victoire écrasante de Alf Landon. Quelqu'un sait c'est qui? Non? Ben voilà.
Il n'a pas gagné.
Écoute, je pense que la prédiction, c'était qu'il allait gagner genre l'équivalent d'une trentaine d'États. Il en a gagné deux, le Maine et le Vermont.
Mais là, à combien de temps d'élections qui ont prédit ça?
Un mois ou deux semaines avant. J'oublie tout le temps. Alors, c'était un échec légendaire, mais c'est parce que c'est la méthode de sondage. Ils envoyaient leur magazine, puis dans leur magazine, ils disaient « Renvoyez-nous vos questions. Okay. » Ils avaient un gros échantillon, parce qu'ils avaient énormément...
Un gros billet de départ.
Oui, mais le pari qu'ils avaient dans le temps, puis il faut se rappeler que c'était au début de la statistique, le chiffre de nombre, je pense, le nombre de réponses qu'ils obtenaient était dans les 50 ou 60 000. Puis tu dis, ben, par loi des grands nombres, c'est dur d'avoir un échantillon, tu sais, biaisé avec 60 000 personnes, disons.
Non, c'est faisable.
Mais dans le temps, ils ne savaient pas. C'est que tu n'avais pas autant, ouais. D'observations. Alors qu'on réalise que non, tant que tu choisis vraiment sur une caractéristique convenable, ouais, ton échantillon, mais c'est sûr que tu vas avoir un biais. Ça dépend
à la base, en 1936, si c'est juste les lecteurs du Reader's Digest qui répondent, à la base, tous les gens qui ne savent pas lire ou qui ont de la difficulté à lire ne sont pas dans le sondage. Premier biais évident. Là.
J'ai cherché le nom. Literary Digest. Excuse-moi.
Okay, c'était pas le Reader's Digest. Okay.
Non, c'est ça. Literary, ça les a tués. Là. Journal, le Pearl. Ça a tué leur crédibilité. Mais ils faisaient ça dans toutes les élections depuis, disons, je pense, 1916 ou 1912. Donc, ils avaient des sondages. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais.
Tu as une pression aussi. Excuse-moi de te couper, là, mais ouais, mettons que tu es une compagnie de sondage puis que tu arrives avec un résultat qui sort un peu de la norme, là, mais tu sais, vraiment, tu as une pression aussi d'avoir de l'air cave si jamais ton affaire, finalement, se matérialise pas. Rappelez-vous du sondage qui mettait quasiment la disparition du Bloc québécois avant que ça se produise. Je me rappelle de Jean Lapierre à la télé, complètement scandalisé, qui disait « Personne qui suit la politique croit à ça, le NPD aussi fort, le Bloc qui domine pas. » Puis tout le monde avait... Je me souviens plus qui avait fait ce sondage-là à l'époque, mais la maison de sondage s'était fait solidement brasser dans les médias par toutes sortes de commentateurs.
C'était une pas très aimée, un genre de crop, là. C'était anglophone, je pense. C'était pas un léger. C'était pas Saint-Jean-Marc qui avait fait ça.
Non, puis tu sais, je pense que c'est parce qu'il aurait pu aussi se planter avec ça. Mais là, tu as un prix à payer. Après, c'est ta crédibilité comme maison de sondage. Si, mettons, il avait dit ça, puis finalement, ça ne s'était pas produit, alors que là, on s'en rappelle tout pour finalement un sondage un peu, pas prophétique, là, mais quasiment, là, réalité.
Oui, bien, il y a deux choses. C'est que généralement, là, puis là, j'ai envoyé un lien à Frank là, d'une étude que... Parce que je disais, je faisais un read-up sur la précision des sondages. Puis j'étais un peu surpris de voir qu'il n'y a pas l'air d'avoir dans la littérature scientifique un accord sur l'idée des votants qui mentent. Moi, je pensais que c'était quelque chose de bien établi, que tu avais, disons, des biais que les gens ont des biais de désirabilité, donc ils mentaient aux sondeurs pour ne pas paraître très...
Il y a clairement un mensonge dans les sondages. Il est très évident dans celui de Main Street. Les gens disent qu'ils sont à 80 quelques pourcents sûrs d'aller voter. Puis on sait que le taux de participation va être à 60.
C'est ça. Mais le mensonge, c'est pas sûr. Je veux pas dire que je suis, disons, je veux pas dire que je veux voter. Bon, aux États-Unis, l'exemple classique, c'est que tu veux pas dire que tu votes pour Donald Trump à cause de la polarisation, l'aspect polarisant du personnage. Mais ouais, ça, en réalité, de l'article que je monte à Frank, que Frank met à l'écran, c'est dans Government and Opposition, qui est un journal en sciences politiques, un petit journal, mais quand même. Et ce qu'il montre, c'est le shy voter, le votant qui ment sur son choix, c'est vraiment pas très important.
Je pense que c'est plus marginal, effectivement.
Puis ce qui est plus important, c'est, ça a l'air que c'est comment est-ce que les poids par catégorie démographique sont créés. Donc, tu essaies des fois de repondérer. Tu te dis, ben si j'ai 30 étudiants qui ont répondu, mais que c'est comme 30% de l'échantillon, ben il faudrait peut-être repondérer leur importance pour que ça soit représentatif de la population en général, ou etc. En fait, tu peux faire de la pondération des strates de ton échantillon. L'autre chose aussi qui a l'air d'être un truc que les sondeurs ne peuvent juste rien dire, c'est que les gens peuvent, lorsque les indécis ou ceux qui disent qu'ils ne vont pas voter, vont briser dans deux directions. Il y a toujours cet effet-là. Et dans les systèmes parlementaires britanniques, il y a toujours l'effet qu'une des présomptions que les sondages ne peuvent pas dire, c'est qu'ils vont te demander quand ils disent un autre parti, ils vont présumer qu'un autre parti est effectivement présent sur le bulletin de vote. Mais s'il ne l'est pas, ça va changer le mix. Ça veut rien dire, ça va changer le mix. Mais tu sais, quand tu as 3 à 4 d'autres partis, mais que ces autres partis-là, quand tu regardes, généralement, les autres partis font rarement la proportion qui... Puis c'est pas qu'ils la font rarement, parce que des fois, ils surshootent, puis des fois, ils undershoot. Mais non, généralement, c'est qu'ils sont toujours du côté négatif, qu'ils sont en dessous de la prédiction, parce qu'ils n'ont juste pas de candidats. Donc, tu prends
toutes ces erreurs-là. Il y a l'effet aussi, il y a l'effet du vote stratégique slash le coût d'aller voter. Dans le sens que, je pense qu'on en a parlé souvent, il y a un coût à payer pour aller voter. Un temps d'attente. Ouais. Faire garder les enfants, peu importe. Donc, à quelque part, pour que la personne se déplace, il doit y avoir un bénéfice. Tu ne payes pas un prix s'il n'y a pas de bénéfice. Le bénéfice est basé, OK, le devoir de citoyen, sentiment de culpabilité. Fair enough. Le sentiment d'accomplissement, peu importe. À quelque part, tu vas satisfaire un sentiment, le désir de changer les choses. Parce que si tu analyses ça froidement, étant donné les coûts à payer, ça ne vaut absolument pas la peine de se déplacer voter. Le vote, marginalement, ne rapporte rien. Au point de vue strictement, si on parle d'un être humain qui est un robot, par exemple, jamais quelqu'un qui n'a aucune émotion va aller voter. Il y a absolument des gains qui ne sont pas assez justifiés pour justifier ce coût-là. Fait qu'on est toujours au niveau de l'émotion qui fait en sorte que les gens décident d'aller voter. Moi, personnellement, ça a toujours été un sens du devoir, désir de changer les choses qui a joué en faveur du fait que je me déplace généralement pour aller voter. Ma femme, par exemple, elle, c'est strictement le sens du devoir. Une fois, j'ai trouvé que c'était de la merde. J'ai dit, je ne vais pas voter. Ça ne me tente pas. Je faisais mon gelozo. Je chignais dans mon coin. C'est tout des caves. Je ne voulais rien savoir. On a fini par y aller.
C'est gratuit, ça. Hein?
Oui, ben, il faut. mais on a fini par y aller voter parce que ma femme, c'était non, sens du devoir. Il faut aller voter. Il n'y a pas de raison. Si on veut avoir le droit de chialer,
moi aussi, ma blonde, elle pense de même. Mais,
elle avait un coût à payer trop important de ne pas aller voter. Elle, c'était non. Si je ne vais pas voter, je n'ai pas fait mon devoir. Elle ne manquera pas un vote. Il n'y en est pas question. Puis,
ouais, moi, mais puis en plus,
c'est gay, ben là, je l'ai accompagné. Tu sais.
Mais ça, c'est un. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent de même. Puis honnêtement, j'ai jasé souvent avec ma blonde pour essayer de comprendre pourquoi elle pense comme ça. Puis parce qu'elle, elle préfère aller voter. Puis faire un gros X sur le bulletin, puis crisser ça dans le truc, que pas y aller. Puis moi, je disais, mais c'est objectivement la même chose en réalité. Tu n'as pas donné ton appui à personne, mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens comme ça, ils attachent une importance au fait d'y aller.
Sentiment de culpabilité, je pense.
Oui, bien, il y a deux choses à dire là-dessus. Premièrement, même moi, en fait, que tu penserais que je ne vais pas voter, mais je vais voter quand je peux. Mais depuis les 5 ou 6 dernières élections, j'achète les « Hello, my name is », les tags. J'écris quelque chose avant, je le mets dans ma poche, puis je le colle sur le bulletin de vote quand je rentre à l'intérieur. La dernière fois, j'ai voté pour Pat McGroin. J'ai voté pour Seymour Butts. j'ai voté une fois pour Maurice Duplessis. J'ai voté pour Arambe à une élection. Fait que, tu sais, j'écris des niaiseries, puis je me dis l'utilité de mon vote va augmenter parce que je vais faire rire une personne. Mais même moi, tu sais, je suis pas capable de me départir.
Tu prends ça en photo au moins?
Non, parce que si je le prends en photo puis je le mets sur les réseaux sociaux, je brise la loi, puis il y a des amendes.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Puis, mais j'ai pris des photos, je peux les envoyer en privé, mais je veux juste pas qu'ils circulent. Je veux pas que ça circule parce que sinon, j'ai brisé la loi en prenant la photo. Maintenant, je le dis par contre que je les ai pris, mais tu sais, je veux dire.
Tu pourrais mentir
gens,
encore une
les
fois.
Les gens d'Élections Canada, je pourrais être en train de mentir.
Mais juste pour faire du pouce avec la fin des électeurs, voir s'ils mentent.
Non, mais attends, je veux juste une autre. Il y a un truc quand même que je trouve, c'est peut-être une bonne chose que les gens aient ce réflexe-là. Hormis l'autre chose que je voulais dire à propos de voter, c'est peut-être bon qu'il y ait une sorte de culture démocratique où les gens pensent qu'ils doivent avoir une participation. Si ça vient avec, dans un cadre, un périmètre clair d'une démocratie libérale, où il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit de voter, ou qu'on voit que la fonction de voter, c'est de contraindre les gouvernements, bien dans ce cas-là, je suis confortable. Est-ce que je pense qu'on devrait, tu sais, toujours rendre le vote le plus facile possible? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu devrais rendre le vote optimalement facile ou difficile, comment tu veux le voir. Tu devrais pas, tu sais, je pense que tu devrais faire un mini-effort pour aller voter, mais tu devrais pas réduire le coût de voter le plus proche possible de zéro. Je
pense que rémunérer les gens pour voter.
Oui, ben, la raison. Les gens de QS qui vont sur des campus en disant « Regarde, là, voici comment changer ton adresse pour pouvoir pas te... » Moi, je trouve que ça, c'est... Ouais, si la personne veut voter pour toi, mais est trop lâche pour faire le processus, tu devrais pas l'aider pour ça.
Mais il y a une raison pour ça, c'est parce que... Puis ça, c'est le lien que je t'ai envoyé. Il y a un de mes collègues ici à Mason qui s'appelle Brian Kaplan qui a écrit un livre qui s'appelle « The Myth of the Rational Voter ». Le titre, je l'aime vraiment pas. Parce que, en gros, ce qu'il dit, c'est « The Myth of the Rational Voter », mais dans l'idée qu'il pense vraiment à l'effet de ses résultats. Alors que un meilleur mot, ça serait l'irrationalité rationnelle. Ça a l'air con dit de même.
Ben, c'est Miguet qui disait ça.
Oui, bien, Miguet, justement, le dit comme ça, mais en anglais, c'est pas aussi beau qu'en français. C'est une des rares fois que ça arrive. Mais l'irrationalité rationnelle est vraiment plus beau en français qu'en anglais, je trouve. En tout cas, c'est subjectif.
Brian Kaplan, tu en as déjà parlé de lui, il me semble, mais pour autre chose.
Oui, mais Brian, une des choses qu'il dit, c'est que quand tu votes, tu fais ce qu'on appelle, si tu consommes l'acte de voter, tu as un coût, c'est celui d'aller voter, plus le coût des politiques que tu obtiens. Mais le bénéfice, c'est quoi? Dans la version traditionnelle, on dirait que c'est la probabilité que ton vote détermine l'ensemble de politiques que tu veux.
Ça, c'est pas vrai, ça vaut rien, ce vote.
Mais ton vote vaut rien. Il ne changera pas le résultat. Par contre, ton vote peut t'acheter un membership à un groupe, à un ensemble de croyances qui t'apporte un bien-être. Et là, imagine la chose comme ça. Lorsque je vais voter, on va imaginer que j'ai un biais préexistant et on va prendre pour les auditeurs, on va y aller avec l'idée. Imaginons que je suis raciste, que j'ai des visions sur les relations raciales et que je vais voter sur cette prémisse-là. Quand je vote, j'impose, si mon vote a un effet, j'impose des coûts à autrui, right, les dommages qui sont causés par les politiques qui viennent avec ce que je défends, mais le bénéfice, au final, pour moi, le coût va être minime parce que mon vote ne changera rien, mais j'ai un bénéfice, c'est-à-dire que j'ai un bénéfice à conserver un ensemble de croyances particulier, c'est-à-dire que je peux consommer de la bullshit. Puis c'est ça qu'il dit, rationalité irrationnelle, c'est que des systèmes de croyances qu'on peut avoir qui sont factuellement faux, qui n'ont aucune base scientifique, voter sur des politiques basées sur ça, tu n'as aucune incitation dans le mécanisme de corriger des croyances erronées et de voter sur des croyances avec des croyances correctes et d'avoir des résultats qui sont alignés plus sur l'intérêt collectif parce que tu consommes autre chose que le résultat du vote. Tu consommes la valeur expressive de ton vote. Puis dans ces cas-là, c'est pour ça que je dis qu'une démocratie libérale, c'est bien plus que voter. Ça veut dire que tu dois avoir des mécanismes de contrainte. Ça peut inclure notamment des citoyens qui sont bien éduqués, qui savent, qui ont une sorte d'instruction populaire, mais aussi qui s'impliquent dans leur communauté. C'est pour ça que, tu sais, quand je dis l'importance de la société civile, un des mécanismes dans lequel tu corriges le plus souvent tes biais, c'est par des interactions avec des gens avec qui tu n'es pas familier. Donc, tu devrais avoir plus d'interactions dans la société civile pour que le vote soit mieux instruit. C'est des choses comme ça qui sont importantes. Fait que quand j'entends parler les gens de l'acte de voter, puis de dire qu'il faudrait que tout le monde puisse voter. Non, il faudrait que tout le monde
ou rendre le vote obligatoire, on l'entend seulement.
On l'entend souvent.
Ben, c'est ça. Ce que tu veux, c'est peut-être c'est peut-être plus pertinent, parce que là, les gens vont dire « Ah, oh, tu ne veux pas que les gens votent. » Non, ce que je voudrais, c'est que tu aies un mécanisme dans lequel tu essaies d'aligner les incitations de l'électeur davantage avec celui de la collectivité dans l'agrégat. Ça veut dire peut-être de casser des gouvernements en plus petits niveaux de gouvernement, que tu donnes plus de gestion, par exemple, dans les villes. Le fédéralisme découle largement de cette idée-là. Donc, que tu casses les pouvoirs pour qu'il y ait plus de petits gouvernements qui existent. Tu peux casser les chambres. Donc, tu as deux chambres. Donc, tu peux voter pour deux députés en même temps et chacun a des ranges de pouvoir plus limités sur lesquels ils peuvent agir, donc tu as moins d'informations à considérer comme électeur. Ce que tu fais dans des situations comme ça, c'est que c'est pas que tu changes le nombre de personnes qui votent, tu changes la manière dont leurs incitations sont alignées pour, A, considérer de l'information, et deux, agir comme une contrainte efficace sur le politicien. Comme ça, le politicien de la municipalité ne peut pas mentir sur le trottoir, sur l'efficacité du trottoir, si dans son conseil municipal, par exemple, il y a juste 100 personnes qui votent, puis au quotidien, ils voient le trottoir. Dans un cas comme ça, tu as une contrainte qui est effective, comme on dit en anglais, et qui est binding, je ne sais pas comment le dire en français, là, effective and binding.
Contraignante,
merci. Là, ça, c'est efficace, puis tu veux un système comme ça. Quand les gens disent, il faudrait que tout le monde aille voter, non, ce que je veux, ce que tu devrais vouloir, c'est comme l'affaire avec, quand je dis tout le temps, ce qui compte, ce n'est pas les joueurs, mais les règles du jeu. Ben ici, c'est que tu veux aussi que les règles du jeu encouragent le bon comportement, tant des politiciens, mais aussi des électeurs, d'agir comme la contrainte qui devrait être sur l'abus de pouvoir. C'est ça qu'on veut, pour ça qu'on veut que les gens votent, pour contraindre les politiciens.
Je pense que je simplifie un peu quand je dis qu'elle va voter strictement par sentiment de culpabilité. Je pense qu'à quelque part, effectivement, si tu es au plus profond de toi-même un démocrate, exercer ton droit de vote, c'est un devoir. Mais la raison pourquoi, peut-être qu'on a canné ça dans une phrase qui est un peu vide de sens, c'est ton devoir d'aller voter. OK? Ou cesse date. Mais je pense que ce qui se cache derrière ça pour vrai, c'est que de zéro le goût de vivre dans une tyrannie, puis la seule chose qui fait en sorte qu'on n'est pas dans une tyrannie, c'est la démocratie. Je veux dire, il n'y a rien d'autre, là. Si tu n'es pas dans une démocratie, c'est une tyrannie d'une certaine forme. Pour l'instant, il n'y a personne qui a inventé un nouveau système qui n'était pas un des deux, là. Fait qu'à un moment donné, tu es là.
Un degré des deux, mettons.
Si tu veux. Fait que dans le fond, tu te ramasses vraiment dans une situation où est-ce que le seul moyen de ne pas vivre dans une démocratie, de ne pas vivre dans une tyrannie, c'est d'aller voter. Fait que si tu refuses d'aller voter, si tu ne fais pas ton devoir de citoyen, tu acceptes inconsciemment de te diriger tranquillement vers une tyrannie.
Parce que, ben, moi, c'est déjà des phrases que je me suis fait dire par. Mettons, j'avais dit ça, la même discussion qu'on a avec des gens. Puis il me répondait là, du tac au tac un peu des phrases comme la suivante. Écoute, il y a tellement de gens sur la Terre qui ne peuvent pas voter parce qu'ils vivent dans une dictature que moi, je vais profiter de ce droit-là.
Je pense que ma blonde me l'a carrément déjà dit, cette phrase-là.
Écoute, j'aime bien comment on dit ça parce que ça revient un peu à l'idée de ce que nous, on gère, c'est la version abstraite des normes et coutumes font le périmètre du politicien. Si les gens croient que leur devoir... Imagine la situation suivante. Puis on va faire deux cas de vote. Le premier, c'est que tu votes sur ce que le politicien peut te donner versus tu votes...
Donc, la version mercantile, on pourrait dire.
La version... Moi, j'aime ça comment tu dis ça, c'est bon. La version mercantile, que ton but, c'est de voter pour avoir quelque chose que le dirigeant te donne, puis ça ne te dérange pas si tu fais mal à autrui. Ou tu peux avoir la version dans laquelle ce système-là n'est pas parfait, mais je suis une des incitations pour que le politicien essaye de faire la bonne chose.
Ce système-là n'est pas parfait. J'essaie pas de voter pour tirer un avantage pécunier pour moi-même, mais je crois dans le système, puis me déplacer pour aller voter, c'est un vote en soi. Le fait de me déplacer pour aller faire un X dans une case, peu importe dans quelle case ce X-là se retrouve, en soi, c'est un vote de confiance dans le système démocratique dans lequel on vit.
Yep.
Ben, tu peux te dire aussi que plus il y a de gens qui votent, plus ton taux de participation est élevé, plus d'une certaine manière, ça peut forcer le dirigeant ou l'aspirant dirigeant à essayer de s'adresser à une majorité d'individus, plutôt que si tu sais qu'il y a juste 40% des gens qui vont voter, ben, en réalité, tu as une très faible proportion de la population à qui tu dois t'adresser pour espérer former un gouvernement, parce que de toute façon, les gens ne vont pas voter.
Ça favorise un clientélisme très cynique, en fait, un taux de participation qui est très bas. Là.
Je ne sais pas là-dessus, parce que c'est possible aussi que ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des coalitions de rent seekers. À 100%, tu ne peux plus vraiment le faire, mais tu peux aussi avoir dans ce cas-là un coup où est-ce que tu invites des électeurs qui sont... Par exemple, si tu forces les gens à voter, tu peux inviter des électeurs qui sont de... qui sont, disons... Je suis très content que quelqu'un du Front National, par exemple, ne vote pas. Je m'excuse, là, je vais le dire très consciemment. Puis c'est difficile de voir quelqu'un qui me dit qu'il aimerait ça qu'on castre les immigrants, que j'essaie de prendre des trucs les plus extrêmes et des visions, tu sais, que tu trouverais, que n'importe quelle personne en société polie trouverait inacceptable. Mais on est content qu'il n'ait pas voté. Puis on pense que, oui, dans ce cas-là, c'est peut-être bien que le système ait des incitations que les électeurs s'informent le plus possible et agissent comme une contrainte contre les dérives antidémocratiques, totalitaires et autoritaires. C'est ça qu'on veut dans la nature du système. Et les gens ont peur de. Les gens qui parlent, les commentateurs politiques ont peur de comprendre cette nature-là du système. Et ils ont vraiment une vision linéaire dans laquelle ça doit être. Plus, c'est mieux. Moi, ce n'est pas ça que je dis, non. C'est que des fois, tu peux peut-être que plus, c'est mieux, oui, mais ce que je veux, c'est vraiment un système dans lequel on vote pour la bonne raison. C'est-à-dire qu'on voit notre action, un peu comme ta blonde le voit, comme l'acte de contraindre les dérives démocratiques, de punir des abus de pouvoir, qu'on voit notre fonction dans une société démocratique, mais aussi de corriger des erreurs qui sont faites. Donc, ça devient beaucoup plus une question des règles du jeu, des incitations qui sont pour les électeurs et les politiciens. Comment est-ce qu'on organise les décisions démocratiques? Est-ce qu'on peut en déléguer le plus possible en dehors de la sphère politique pour qu'il y ait un univers plus petit à considérer, donc moins d'informations à devoir considérer lors du vote? Est-ce qu'on peut aussi la scinder pour que ça aille vers des politiques qui sont plus petites, les villes, les conseils locaux? Tu devrais vouloir cette fragmentation-là parce que là, ce que tu fais, c'est que tu essaies d'aligner l'acte de voter avec ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose qui est non seulement le gain pour la collectivité, mais aussi le gain pour la persistance du système libéral démocratique dans lequel tu opères.
La plupart des gens qui écoutaient présentement le trio économique, le sujet qu'on parle, on est en train de taper ça, on est le 15 septembre, on est à 2 semaines d'élection provinciale, 2 à 3 semaines. Fait que vous êtes probablement, la plupart des gens, en train de l'écouter en version gratuite sur YouTube. L'élection est déjà passée. François Legault est votre premier ministre, probablement. Mais dites-vous une chose par contre, nos Patreons, eux, c'était beaucoup plus intéressant pour eux autres, cette discussion-là, parce qu'ils l'ont eu dans leur boîte de courriel, quelque chose comme le 16 ou 17 septembre. Frank, si je ne me trompe pas.
Ouais, en tout cas, pour la plupart. Là, ouais.
Pour la plupart, ils vont l'avoir le 16 ou 17 septembre. Donc, ils vont trouver cette discussion-là particulièrement intéressante avant le vote. Fait que c'est une des bonnes raisons de vous abonner à notre Patreon pour, dans certaines situations, qu'on sort de l'intemporel, comme on a fait un peu aujourd'hui. Puis également, ben, le podcast est carrément sans publicité sur Patreon. Fait que ça aussi, c'est un autre incitatif. Fait que je voulais le plugger pour vous, là, parce que je sais que ça va faire un peu louche quand vous allez l'écouter. D'habitude, on fait attention, on est complètement intemporel dans le trio économique, mais on n'a pas pu s'en empêcher.
Ouais. Mais en même temps, c'est intemporel aussi, dans le sens que oui, OK, ouais. Au début, on a parlé d'Anglade puis tout, là, mais les motifs qui feraient qu'un individu va voter ou pas sont à quelque part... Ben non, j'allais dire sont intemporels. C'est plus ou moins vrai, parce que si tu regardes, par exemple, une femme ou un groupe de femmes qui a, on va dire, 75 ans et plus, eux, peut-être qu'ils vont voter parce que leur mère n'avait pas le droit de le faire. Tu comprends? Oui. Ouais. Eux peuvent avoir une raison que les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas ou ne se sentent pas interpellés par ça.
Puis, écoute, t'as probablement raison parce que la perception que j'ai là, des gens qui ont un peu le sens du devoir comme ma femme, j'ai l'impression que ça a été transmis. Puis c'est complètement un préjugé, là, mais quand je regarde mon entourage, j'ai l'impression que ça a été transmis beaucoup de mère en fille. Cette histoire-là. J'ai rarement entendu un homme me dire « je vais voter parce que c'est le devoir d'un citoyen ». J'ai entendu beaucoup de femmes dans ma vie le dire, par contre. Puis, il y a une possibilité, là, sérieusement. T'as peut-être de quoi, Frank?
Ben, en tout cas, moi aussi, je l'ai remarqué aussi. Là.
J'aimerais ça voir quelque chose. Puis ça va t'en dire. Des fois, tu le vois dans le langage un peu, parce que j'aime pas parler de culture en général, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi avec ça, puis c'est difficile de définir certaines choses. Avec ça, tu parles de la bullshit qui se cache, en gros, dans la culture. Bon, tu peux des fois avoir des petits aperçus de comment est-ce que les gens en pensent. Puis mon préféré, puis je ne l'avais jamais remarqué avant que Sarah Squire, qui est une professeure de littérature anglaise, qui est libertarienne, ce qui est très rare, me fait remarquer, est-ce que tu dis « l'État a reconnu le droit de vote des femmes » ou tu dis « l'État a conféré le droit de vote aux femmes » Puis ça m'a pris vraiment...
Ouais, t'en as déjà parlé de ça.
Ça a été, depuis, là, quand j'entends l'expression, puis je sais c'est quoi l'idéologie de la personne, la corrélation entre la position que tu as sur l'échiquier, mettons, libéral, anti-illibéral et libéral, versus la phrase que tu utilises est vraiment presque du 1 pour 1. Tu vas avoir... Puis non, c'est ça, mais celle que j'ai entendue qui l'a dit, c'était Marine Le Pen qui avait dit quand l'État a donné le droit de vote aux femmes, puis celui qui avait dit reconnu, c'était Macron. Puis j'étais là, ah! C'était parfait. C'est parfait parce que dans ce moment-là, tu voyais l'écart complet entre les deux visions du monde. Un était plus libéral que l'autre. Et tu peux voir, je suis sûr que si on regardait, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois parler, on verrait la vision de la démocratie beaucoup plus dans sa forme mercantile, donc tu votes pour avoir des nananes, mais aussi que c'est l'État qui te confère des nananes. Donc l'État a une certaine hiérarchie qui existe. Puis quand tu vas voir des gens qui... Ça serait dur d'en trouver au Québec, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de libéraux au Québec, là, même s'il y a un parti soi-disant libéral. Tu vas voir que ces gens-là vont voir peut-être l'autre conception de la démocratie, qui est que notre acte est de contraindre les abus de pouvoir, d'établir un périmètre dans lequel on contient l'État dans sa forme nécessaire, mais pas qu'il aille dans sa forme abusive, prédatrice. Puis ça devient un jeu d'équilibre. Cette vision-là, je pense, est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus riche, même si elle est plus rare parmi ces... Il y a moins de détenteurs de cette vision-là.
Mmh. Moi, je m'étais déjà fait dire aussi par quelqu'un, une connaissance, là, ses parents, eux, avaient immigré, je ne me souviens plus si c'est de Chine, mais en tout cas, un pays d'Asie, et il me disait, tu sais, mes parents, eux autres, ils insistaient beaucoup, beaucoup là, pour qu'on aille voter, là. Parce que, tu sais, chez nous, soit il y avait plus ou moins le droit de vote, ou c'était, tu sais, il y avait toujours l'impression que les élections étaient patentées, là. Et eux avaient transmis ça à leurs enfants, dans le sens que, tu sais, en disant, vous avez la chance ici de pouvoir aller, tu sais, faire un X sur un bulletin de vote sans être menacé, sans que finalement tu ne sais pas trop si on va prendre ton bulletin de vote puis le mettre dans la boîte de quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, il y a des endroits dans le monde, on ne se cachera pas, là, les élections sont solidement tripotées. Ouais. J'ai travaillé avec un gars à un moment donné, lui, il avait une situation un peu spéciale parce que ça bref, je n'entrerai pas dans les détails, mais en gros, c'est un Vénézuélien. Et il me disait, tu sais, là-bas, on va voter, mais tout le monde sait que les élections sont arrangées. Tu sais, personne ne croit vraiment au résultat. En fait, les gens là-bas n'ont aucune confiance en leurs institutions, là, mais aucune. Là.
Mais j'ai fait une recherche sur Google, vite, c'est ton affaire de reconnaître le droit de vote des femmes, puis l'octroi du droit de vote des femmes, puis le mot reconnaître le droit de vote est quasiment jamais utilisé. Pratiquement jamais.
Ça me surprend pas. Mais aux États-Unis, tu vas le voir. Tu peux le voir, surtout aux États-Unis, il va y avoir la différence entre granted or recognized. Puis là, tu vas le voir, puis ça correspond très, très fortement à la différence.
Ben, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que tes droits naturels, en réalité, sont des privilèges. C'est la différence entre les deux. Mmh. Ouais. C'est que c'est un privilège de pouvoir... Puis ça, je l'ai déjà entendu, ce genre de phrase-là. Puis c'est pas nécessairement dit de manière consciemment péjorative, là, mais eux vont dire « Ouais, mais c'est un privilège qu'on a de faire telle affaire. » En réalité, dans un système démocratique, voter, c'est pas un privilège, c'est un droit fondamental.
Ouais, ben, en fait, à la limite, là, dès que tu pars d'une prémisse de droit naturel en quelque part, pas besoin d'être un strict adhérent genre Murray Rothbard ou un adhérent un peu plus lousse comme, on va dire, Elizabeth Anderson qui est un exemple de plus lousse. Dès que tu es là-dedans, c'est difficile de ne pas faire partie de la grande famille libérale parce que tu présumes qu'il y a des droits qui préexistent l'État. Puis la question, c'est comment tu fais pour avoir un État qui les respecte? Puis qui agit autour de ça, puis qui essaye de faire des politiques publiques en respectant les droits, en ayant sur le consensus le plus possible. Ça, c'est la définition de la démocratie. Si tu es dans la version autre que les droits sont construits par le pouvoir, par la force que tu peux exercer, soit dans le vote, soit avec une épée, ben là, ça devient beaucoup plus difficile d'arriver à... Comment tu fais pour avoir quelque chose qui persiste à travers le temps? Ça devient en fait littéralement impossible. Fait que vraiment, le meilleur mind frame, c'est de part de l'idée que les droits des gens préexistent l'État et c'est à l'État de les reconnaître et que s'il en vient à faire des transgressions, parce qu'il y en aura toujours des petites transgressions, est-ce que ces transgressions-là sont justifiables d'une manière claire par l'utilité collective ou un critère que tu peux définir, du moins définir en phase constitutionnelle, que tu dis d'emblée, voici les instances dans lesquelles c'est correct de violer cette règle-là. Et là, dans ce cas-ci, on a le changement de politique publique.
Ben, tu en le fait, vois, en vas-y, Anne.
Oui, bien, les gens, moi, au fil du temps, c'est sûr que quand tu commences en politique puis tu commences à faire toutes ces affaires-là, on s'entend, tu es un peu un newbie, fait que tu t'embarques un peu dans les vagues puis tu réfléchis pas tant par toi-même. C'est à force de lecture, à force de discussion que tu viens vraiment qu'à construire ta façon de voir les choses. Moi, au fil du temps, j'ai appris à me méfier des mots « permis » et « privilège ». Je comprends la nature maintenant de c'est quoi un permis. Rapidement, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens autour de nous ne se méfient pas du tout de ces mots-là. On devrait avoir un permis pour enseigner au Québec. On devrait avoir un permis pour ça. On devrait avoir un permis pour ça. Oui, mais le permis, c'est la permission demandée à l'État de faire quelque chose que tu pourrais faire par toi-même si tu voulais, là.
Hey, combien de fois dans votre vie vous avez entendu quelqu'un parler de, je sais pas moi, quelqu'un d'un peu tout croche qui était condamné pour quelque chose, puis il te sort « Ah, on devrait avoir un permis pour faire des enfants. »
Exactement.
Et je l'ai entendu plus souvent qu'une fois, ça, là. Il
faut apprendre à se méfier de ces mots-là, alors qu'en réalité, une grande partie de la population ne s'en méfie pas.
Oui. Puis là, sur ça, il y a des contextes dans lesquels un permis, c'est justifiable. Un permis de pêche. En théorie économique, un des exemples que tu as, c'est ce qu'on appelle des ressources communes. Puis ça, c'est celle dans laquelle l'utilisation est rivale. C'est-à-dire que si moi, je la consomme, elle n'est plus disponible pour les autres, mais qu'il n'y a pas de manière de faire un système. Non, mais d'avoir un système d'exclusion. Donc, si moi, disons, je ne pêche pas le poisson, c'est l'autre pêcheur qui va l'avoir. Donc là, il y a une course à pêcher le plus possible et tu te retrouves avec
surtout que tu peux avoir des techniques.
Ouais, ben, tu vas avoir une surexploitation de la ressource. Mais là, tu sais, pourquoi est-ce que des permis de pêche ont commencé à émerger? Tu as des pays où est-ce qu'ils ont des permis de propriété sur une partie de la pêche, mais l'État dit que tu ne peux pas pêcher plus que la propriété qu'on t'a créée dans ça et que tu as acheté auprès de nous. Mais là, dans ce cas-ci, c'est que l'État règle un problème. C'est que s'il n'y avait pas de ce mécanisme-là, les gens surpêcheraient et tu aurais une extinction des espèces de poissons. Mais ça, c'est un cas dans lequel. Oui, puis c'est arrivé par le passé. Mais ça, c'est un exemple.
Ça, c'est un rôle des écologistes qui ont été pertinents dans l'histoire, pareil, l'humanité. Dans le sens que je ne sais pas exactement c'est quoi les études que les gens qui gèrent les populations de poissons ont, des biologistes probablement, là. Mais je veux dire, c'est déterminant dans la protection des ressources, même à très long terme. Parce que s'il y a des failles, je ne veux pas utiliser le mot faille parce que c'est pas le bon mot dans le capitalisme. Ce n'est pas une faille du capitalisme, mais c'est le gain court terme peut réellement venir problématique dans une situation où est-ce qu'on a des technologies présentement qui nous permettent de pêcher le poisson d'une manière extrêmement facile. Des gros filets, des gros navires, ouais. Name it. Tu es capable de consommer l'entièreté de cette ressource-là, qui techniquement est renouvelable, mais devient non renouvelable si tu la pêches toute dans le même été. Éventuellement, tu es là, tu te dis, OK, il y a une intervention gouvernementale qui peut être vraiment pertinente ici, dans le contrôle des ressources. Parce que si tu veux restreindre quelqu'un à pêcher le poisson en disant, c'est pour le bien à long terme, pour t'assurer d'avoir des ressources à chaque année, pour que le pêcheur accepte le système de permis, il doit avoir confiance que le pêcheur à côté de lui ne crossera pas le système. Parce qu'il dit, OK, vous ne voulez pas qu'on pêche tout le poisson one shot, parce que vous voulez qu'on en ait à long terme, je vais me restreindre à ça, à condition que tout le monde est restreint à ça, puis surveillez-les comme il faut. Fait que ça, c'est l'efficacité d'un système de permis dans un contexte comme celui-là. Le problème, c'est que les permis, c'est rendu pour tout, dans des contextes absolument inutiles. Où est-ce que l'économie de marché fait déjà bien le travail, là?
Ouais, puis, dans tu avais un enjeu d'accès à l'information aussi, là, à une certaine époque, qui justifie peut-être l'arrivée de ce type de mesure-là. Là. Tu sais, je me souviens, j'avais écrit un article là-dessus là, quand j'étais au Cégep. Tu avais à Roberval, au Lac-Saint-Jean, il y a très longtemps, tu avais un hôtel qui était une propriété d'un Anglais là-bas qui s'appelait Horace Beamer. Et lui, il y avait un hôtel qui était sur le bord de l'eau, sur le bord du lac Saint-Jean. Il y avait des gens qui venaient en tourisme, entre autres des États-Unis, de l'Ontario, et ils venaient pêcher la wananiche, qui est un saumon d'eau douce, dans le lac Saint-Jean. Et entre 1888 et genre 1905 qui ont vidé le lac, à toute fin pratique. Là. Mais ouais, ils ne savaient pas, eux, là, c'était quoi la distribution des poissons dans l'eau. Là. En réalité, ils pêchaient, puis tu avais des articles de journaux où tu avais genre un monsieur qui venait de l'Ontario qui se vantait d'avoir pêché genre 300 poissons dans une journée. Mais tu comprends qu'après, ils ont commencé à avoir une meilleure connaissance. Puis aujourd'hui, le lac, en réalité, est ensemencé par des piscicultures. Puis il y a des, tu sais, ils savent comment gérer quelle quantité de poissons il y a dans l'eau. Puis tu sais, qu'est-ce qui est raisonnable de pêcher ou pas. Je suis loin d'être convaincu qu'en 1888, Joe Blow qui va pêcher est au courant de l'impact de ses actions sur la population marine du. Pas marine, là, mais la population de poissons qu'il y a dans l'eau. Là.
Oui, puis non seulement ça, mais il y a un truc. Yann a raison quand il dit qu'on utilise le mot permis beaucoup trop souvent. Mais même dans les cas où il y a une défense raisonnable à faire, même moi, en fait, je suis parmi les économistes qui vont dire, puis là, je sais que je suis dans une minorité, où est-ce que je dis, ben, des fois, même dans les cas où on trouve que c'est raisonnable, le coupable est plus souvent qu'on réalise
l'État.
mon exemple préféré, c'est la pêche aux baleines. Historiquement, en fait, le rectificatif, par exemple, que Greenpeace a fait était là-dessus très pertinent. Greenpeace, en faisant campagne contre la pêche aux baleines, a eu probablement un effet positif.
C'est là qu'on voit qu'il vient de Montréal. Hein? Là,
oh,
c'est...
Oui.
Oh. La pêche aux baleines.
Baleines. Let's just whaling, OK?
Hey, les whalers d'Atford, man! Yes!
Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça.
Quelle belle uniforme. Quelle belle uniforme.
Hey, écoute. Ça t'en dit beaucoup hein, sur c'est quoi qui se passait en fait avant au Connecticut.
c'est vrai,
pareil. Il y avait une grosse industrie de la pêche balnéaire. Je ne sais pas. Mm-hmm. Baleinière, je ne sais pas. Whaling, whatever. quand j'étais habitué à faire mon histoire en anglais là-dessus. Mais la pêche aux baleines, quand tu regardes historiquement, tu avais beaucoup de pays qui donnaient des bounties pour chaque tête ramenée. Donc,
du gouvernement.
Oui, le gouvernement subventionnait la pêche aux baleines. Et l'article que j'ai envoyé à Frank mentionne justement que tu fais des simulations, ben, l'effet n'est pas la grosse majorité de la surpêche qui se produit, mais tu as une partie quand même appréciable qui est le résultat de subventions dès le 18e, 19e siècle. Et aux États-Unis, puis ça, il y a un autre article, là, je le cherchais, mais je ne le retrouve pas parce que j'ai oublié dans quel journal il était, mais je me souviens plus ou moins le titre, mais ça avait donné un livre par Lance Davis puis une couple d'autres personnes. Il comparait avec les États-Unis où est-ce qu'il n'y a jamais eu de subvention sur l'industrie de la pêche aux baleines aux États-Unis. L'industrie est allée en déclin très rapidement vers la moitié du 19e siècle pour deux raisons. La première, c'est que la productivité dans le reste de l'industrie, des autres industries a augmenté. Donc, les salaires ailleurs augmentaient, ce qui faisait que les salaires dans l'industrie de la pêche aux baleines devaient augmenter aussi. Mais le prix n'avait pas augmenté, le prix n'avait pas changé. Donc, tu avais des ressources qui se déplaçaient de l'industrie de la pêche aux baleines vers d'autres industries, mais les coûts augmentaient, la production diminuait dans l'industrie de la pêche aux baleines. L'autre, c'est l'arrivée du pétrole en Pennsylvanie, ouais. Par exemple. Puis ma caricature préférée de tous les temps.
Parce qu'on n'avait pas besoin d'huile de baleine pour allumer des cierges.
Exactement.
Des choses comme ça,
puis d'ailleurs, ça pue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent c'est quoi, mais le gras, le whale fat, ou whale oil, en fait, quand tu essaies de le faire cuire, tu essaies de le faire chauffer, ça laisse une odeur vraiment très, très, très forte. Puis l'arrivée du pétrole, là, j'ai envoyé à Frank un article que j'avais écrit qui résumait la littérature. Frank, si tu pouvais mettre l'image, c'est mon image préférée de toute l'histoire. Puis ça revient à pourquoi je dis que des fois, tu devrais peut-être laisser les marchés fonctionner. Ça, c'est une caricature de 1861, je pense, dans Vanity Fair. Puis ce que tu vois, c'est des baleines de tous les types. Tu as des bowhead, tu en as de toutes les catégories. Puis ils sont à un bal costumé, tout bien habillé. Et dans le titre, c'était The oil wells of our native land, may they never secede. Oil's well that ends well. Well dans le sens le puits de pétrole. Tu as plein de jeux de mots là-dedans. Mais c'est des baleines qui célèbrent quoi au final? L'arrivée du pétrole, parce que ça aide à détruire l'industrie de la pêche aux baleines, parce que, peut-être par réponse au fait qu'il devenait plus rare, donc les prix augmentaient.
Ça, c'est le bout qui n'est pas repris par Greenpeace.
Mais tu sais, quand je disais tantôt, même la section dans laquelle on peut dire qu'il y a une justification peut-être pour l'État, est-ce que vraiment l'État...
Fait que là, tu es en train de dire que pour les baleines, c'est encore un cas où est-ce que le problème est en train de se régler par lui-même. Le gouvernement est intervenu sur le tard dans le dossier, puis finalement a pris tout le mérite de l'économie de marché qu'il réglait lui-même le problème.
Mais c'est quand même une circonstance,
dans le sens qu'on aurait pu réellement détruire toutes les populations de baleines, par contre, avant d'avoir les puits de pétrole suffisants pour rectifier le problème. Parce que avec l'industrialisation, avec le fait que les gens avaient besoin d'énergie, ils avaient besoin de s'éclairer, tout ça, je veux dire, c'était une solution très primitive de prendre ce produit-là pour les lampes, on va se le dire. Puis oui, c'est le fun d'avoir découvert du pétrole en suffisamment grande quantité pour s'en sortir un peu. Mais si ça n'arrive pas, on finit par passer au travers des baleines probablement.
Oh oui, puis écoute, c'est là que tu peux te dire, théoriquement, il y a une justification pour des permis ou des systèmes de réglementation par l'État. Là, il y a une justification qui est quand même assez forte. Mais ça ne veut pas dire que l'État est capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de solution.
Non, parce que l'État est facilement corruptible. On sait comment ça marche, un système de permis. Les amis du pouvoir ont plus de facilité à en avoir. Il y a des gens plus égaux que les autres. Ça ne veut pas dire que l'État a les ressources pour renforcer le système de permis. Parce qu'un système de permis... où est-ce que tu renforces pas, où est-ce que tu n'es pas capable de prendre des coupables puis de taper sur les doigts suffisamment des coupables, ça ne sert à rien ce système de permis. Tout le monde le contourne.
Non, effectivement. Ou bien il peut avoir l'effet que tu veux dans ce secteur-là, mais avoir des effets pervers dans d'autres secteurs. Par exemple, si disons tu réussis à le faire d'une manière que ce qui se passe, c'est que tu passes le coup aux consommateurs puis tu les appauvris. D'une certaine manière, où tu donnes du pouvoir à quelqu'un. Des fois, il faut vraiment que...
Où tu limites la quantité de permis disponibles, mettons. Là, en fait,
un système de pêche comme ça doit limiter le nombre de permis.
Oui, c'est le but. C'est le but du
permis. C'est le but du permis.
Ouais, je faisais plus référence à d'autres types de...
Justement, d'avoir mis des permis dans le taxi, par exemple, ça, c'était cave.
Parce que le permis est utilisé à des fins protectionnistes. Quand tu disais, tu peux anticiper les effets négatifs d'une chose, les premiers qui ont pensé à ça, ils n'ont peut-être pas vu cette opportunité-là en se disant « Ouais, mais plus tard, ça va être utilisé par des gens pour protéger une industrie en déclin. » Ils n'ont sûrement pas pensé à ça. Là.
Non, mais en plus, pour revenir à tout ce qu'on essayait de dire, tu sais, c'est que le mot « permis » est beaucoup trop utilisé. Puis même quand on pense qu'il y a une justification, ça ne veut pas dire que l'État est capable de la faire ou qu'il ne va pas empirer les choses ou que le problème n'est pas causé par lui pour commencer. Donc, tu sais, c'est vraiment un aspect modeste que j'essaie d'encourager.
La fameuse phrase que Frank disait, là, un permis pour faire des enfants. Tu sais, il n'y a jamais personne qui est sérieux quand il dit des affaires de même, mais on comprend que c'est dans la culture. On l'a tout entendu, cette phrase-là. Tout le monde l'a entendu. Ça a déjà existé. En Chine. Ça a été fait, cette affaire-là. Hey, y en a-tu des anomalies qui s'est passées autour de la politique d'un enfant par famille en Chine?
Ils ont encore des problèmes avec ça.
C'est effrayant. C'est effrayant ce qui s'est passé là.
Ah ben écoute, juste pour le fun, c'est drôle. Je fais un book review pour... C'est le fun. C'est pas le fun pantoute. mais je fais un book review pour un think tank. Puis il y a une section dans le livre sur ce qui se passait en Chine avec le One Child Policy. Mais écoute bien ça. Il y avait des trucs que je savais pas qui m'ont vraiment perturbé. Là. C'était dur à lire. Juste savoir que l'État a fait ça. Là. La justification qui était donnée, c'était vraiment une justification écologiste. Il y avait trop de gens, puis que ça faisait que ça imposait une pression sur les ressources naturelles. Puis voici les choses que...
Juste ça, moi, ça me fait
peur. C'est vraiment ça, la justification du One Child Policy, c'est vraiment...
Oui, mais moi, je ne le savais pas, mais c'était... Voici le gars. « Song convinced that the One Child Policy
was necessary in order to curb China's population growth. He calculated that the ideal size of the Chinese population, ça c'était pour 1980, fell between 650 and 700 million. Chong presented his findings to members of the Chinese Academy of Sciences. With their help, he managed to convince China's leadership of the veracity of his claims and that the one-child policy was adopted by the Fifth National People's Congress in September 1980.
1980, on décolle cette affaire-là parce qu'on voulait que la population de la Chine soit d'une manière optimale à 750 millions de personnes. On est quand même rendu à 1,5 milliard, 1,6 milliard, je pense.
Okay, ben, voici des passages vraiment perturbants. Là. In the 1980s, intrauterine devices became state-mandated for women who had already given birth. Fait que déjà là, ça veut dire que tu te fais imposer de mettre...
Traduis-les pour les gens.
Un IUD, ça serait... voyons, je sais pas comment traduire ça, mais tu te fais mettre un stérilet à toute fin pratique. Donc, tu te fais imposer un stérilet. Punishment for non-compliance could be ruthless. One person recalled his part in the enforcement of the one-child policy, donc quelqu'un qui faisait une histoire d'application. He and his team tore down a family's house, donc ils ont détruit une maison, after the mother tried to avoid a state-mandated tubal ligation, donc une
ligature des trompes.
Une ligature des trompes, merci. The Chinese government raked in, ça c'est combien ce qu'ils collectent des frais de gens qui payent la taxe, parce qu'il y a une taxe, parce que tu peux en faire un deuxième par accident. Dans ce cas-là, tu as une taxe à payer. La taxe est à peu près 5 à 10 fois le revenu annuel d'une personne moyenne en Chine. Donc, c'est généralement les gens riches qui font plus que deux enfants parce qu'ils peuvent se payer ça. Mais the Chinese government raked in 2.7 billion from these, et c'est ça le nom pour vrai, social compensation fees, des frais de compensation sociale.
Pas pour rien qu'ils sont venus au crédit social en Chine.
Oui. Puis il y a des enfants, en fait, il y a des parents parce qu'ils ne peuvent pas payer la taxe quand ils sont enceintes. Un autre passage ici, ils abandonnent leurs enfants. Mais les enfants, comme ils sont abandonnés, il y a des gens qui sont gentils puis qui ont un cœur qui les prennent. Mais ces enfants-là n'ont pas le droit d'avoir de papiers légaux. Donc, ils n'existent pas légalement. Ils s'appellent des hukus.
Quel régime tarif.
Puis ce qui est fréquent dans toute histoire-là, puis je vais te laisser continuer après, c'est que l'histoire moderne nous montre quand même que quand un pays passe du statut de sous-développé à en voie de développement à pays développé, ce que la Chine essaie de faire quand même, naturellement, on finit par avoir un taux de natalité qui diminue rapidement. Parce qu'on n'a pas besoin... On connaît le principe, là. On avait des grosses familles pour protéger un peu la famille puis avoir de la main du cheap labor pour travailler sur la terre. Mais quand tu passes d'une économie agricole à une économie de services, la tertiarisation de l'économie, tu n'as plus besoin d'avoir autant d'enfants. Hein. Puis naturellement, la population diminue son taux de natalité.
Il n'y a pas eu de loi là, au Québec pour qu'on passe de famille de 12 à famille de 2-3.
Ouais, mais on a mis l'église dehors, puis le curé, je l'ai mis dehors, un coup de pied dans le cul quand il est venu me dire de faire des bébés.
Yeah. Mais c'est pas. Mais sure. Moi, je pense que c'est bien d'avoir plus de personnes sur Terre. Plus de gens, c'est plus d'idées, puis des idées, c'est non-rival. Fait que moi, je suis vraiment pas de la proportion des gens qui pensent que plus de personnes, c'est un problème. Je pense que plus de personnes, c'est une panacée à toute fin pratique. Surtout si tu les laisses libres.
Oui, puis l'enrichissement de nos sociétés va faire qu'il va y avoir moins de personnes éventuellement.
Oui, mais moi, je considère pas que c'est positif. Moi, si on pouvait continuer de s'enrichir et d'avoir plus de gens, ça veut dire plus d'idées, ça veut dire peut-être qu'on peut aller plus dans l'espace, on peut peut-être inventer des nouvelles technologies, ou est-ce qu'on se fusionne soi-même avec des machines ou qu'on télécharge nos cerveaux dans des ordinateurs. J'exagère, là, mais l'idée d'un futur sans limite, je pense vraiment que c'est possible, mais il faut que tu ailles, si disons, même si tu imagines qu'il y a peut-être 3-4 % de la population chaque année...
C'est en mode Star Trek...
Whatever,
mais, de ce que je comprends, peut-être que je me trompe, Vincent, là, mais ça a changé de nom, mais ça existe encore. En fait.
Ça existe encore.
C'est juste que maintenant, je pense que depuis 2021, en tout cas, c'est ce que je lis est vrai, ils auraient droit, selon certaines conditions, à avoir 3 enfants. Mais au quatrième, tu es aussi bien d'être prêt à l'abandonner quelque part.
Là. Écoute, puis là, l'autre chose que je cherchais, là, juste pour vous donner une idée, il y a un des estimés, je ne sais pas quel poids ils mettent dessus, mais puis ça, c'est une phrase du régime. On va y aller avec le chiffre du gouvernement chinois qui se vante de ça, puis les mots sont importants ici. The one-child policy, quote, freed China from the burden of an extra 400 million people. Freed China From the burden.
Comment on voit la population, pareil.
Oui, oui. Puis ça, là, ces idées-là, puis là, c'est, je sais qu'on a fait un gros changement de sujet. Ouais, hein. L'idée de faire des permis, quand je dis que tu peux tuer de la créativité avec ça, si tu pars de la prémisse qu'un individu, que tu augmentes la population par un individu, ben tu augmentes la chance d'une nouvelle idée qui apparaît, qui est non rivale, que tout le monde peut utiliser, puis qui améliore le bien-être de tout le monde. Tu viens de réduire cette probabilité-là en réduisant le nombre de personnes. Ben, puis en faisant, tu réduis la croissance économique, le bien-être matériel.
Mais quand tu es un socialiste, c'est pas le même que tu le vois.
Oui, mais le permis dans ce cas-ci, le permis de faire des enfants dans ce cas-ci, a eu un coût social et économique plus loin dans l'avenir, mais qui est quand même très important. Imagine qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu 400 millions plus de Chinois. Imagine la proportion, juste au nombre de gens dans les universités qui sont des inventeurs qui viennent de chez nous.
C'est-tu un mythe où c'est presque juste des hommes, les one-childers, si on pourrait dire, là? Dans le sens que présentement, tu aurais à peu près, chez les jeunes Chinois,
c'est pas un mythe. Le ratio,
3
c'est
ou 4 100... hommes pour une femme? Quelque chose
non, le ratio varie de province en province. Kevin Greer, qui est mon co-auteur sur un autre truc, a un article sur ça qui montre que ça a des effets sur comment est-ce que les gens consomment. Donc, les hommes vont faire beaucoup plus ce qu'on appelle des peacock spending. J'ai toujours aimé le terme. Mais c'est-à-dire
peacock
que
peacock spending, ça, les peacocks, c'est les pinces. Hein?
C'est ça. C'est-à-dire que tu essaies de te montrer davantage. Donc, tu vas faire de la consommation ostentatoire pour signaler ta désirabilité comme
mâle
mating
alpha.
Material. Mais qu'en moyenne, pour le pays, c'est 1,21 hommes par femme ou 121%.
OK, OK. C'est pas comme le lac Saint-Jean qui était 5 filles pour un gars, là.
Ouais, mais attends, là. Attends, c'est 121.
Tu sais, quand on entend n'importe quoi, pareil.
Oui, écoute. Mais 121 pour un, là. Considère que c'est probablement dans les groupes d'âge affectés, c'est probablement.
1,21 pour un, pas 121 pour un.
121 pour 100.
OK, ouais, c'est ça.
J'ai dit 1,21 pour un, mais parce que
121%, ouais.
Parce qu'il y a des gens, les journalistes, souvent, ont de la difficulté avec les points puis les virgules dans des chiffres. On va juste faire un scaler, là, puis on va leur expliquer des petites choses. 121%, pas pourcent, le signe de pourcent.
Mais 100 hommes, 121 femmes.
121 hommes pour 100 femmes.
Ouais.
OK, voilà. Les gens sont contents, on leur a expliqué des choses. Ben, pas nos auditeurs sont très brillants. C'est juste pour les gens.
Il y a un écart seulement de 20% à peu près entre la quantité d'hommes et de femmes, directement lié à une politique publique. Là, on comprend.
Ouais, mais attends.
Ça.
Mais ça inclut tous les Chinois. Ça inclut pas ceux qui étaient nés avant la politique. Donc, il faut que tu prennes. Si tu regardes.
Si on regarde les jeunes, la proportion est probablement plus grande.
Ça approche à peu près le 1,35 pour un.
OK.
Donc, okay. C'est quand même. Mais ça veut dire, si tu y penses, ça veut dire que tu as environ peut-être. Un petit peu plus que 30% des hommes. J'essaie de faire le ratio dans ma tête, mais j'ai un fuck. Puis, je sais pas si c'est 35% exactement, le 1,35 pour un, là, mais environ un tiers des hommes vont être seuls. C'est-à-dire qu'ils ne se trouveront pas de partenaire, ou du moins qu'à n'importe quel moment dans l'année, si tout le monde a un partenaire, si toutes les femmes ont un partenaire, un tiers des hommes n'en auront pas.
Écoute,
c'est quand même considérable ce que ça implique sur les dynamiques.
Dans un podcast, j'ai entendu quelque chose aussi. Tu sais, la tendance des hommes de prendre plus de risques était due au fait que les hommes sont plus facilement expendable, dans le sens que pour la reproduction, la femme est plus importante, tout le monde comprend. Tu n'as pas besoin d'avoir autant d'hommes que de femmes réellement pour la procréation. Un homme peut féconder plus qu'une femme, mais une femme, étant donné que la maternité, c'est 9 mois, puis elle a juste un utérus, oui. Tout le monde comprend ça, ce principe-là. Fait que le fait que les hommes soient expendable dans le processus de procréation les a amenés à être beaucoup plus preneurs de risques que les femmes, parce que justement, tu peux sacrifier des hommes éventuellement. Y a-t-il un peu de ça dans leur politique, de leur côté, de dire, ben écoute, si on a 1,35 homme pour une femme, au pire, c'est pas grave, on aura juste plus de monde dans l'armée qui vont peut-être être un peu plus agressifs ou peu importe.
Ouais, mais tu devrais pas encourager. Écoute, il y a. Je cherchais justement pendant que tu disais ça, tu m'as donné l'idée de regarder. Fait que j'ai été voir Sex Ratios and Crime. Puis voici ce qu'ils disent. Puis ce que je me souviens, c'est. Je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais que. En fait, puis ça fit un peu avec la logique. Un homme, un jeune homme est généralement très violent. Mais quand tu casse les jeunes hommes en fonction de s'ils sont en couple avec enfants, ou en couple dans un ménage nucléaire, donc que tu as des parents qui sont présents. Plus tu ajoutes des personnes dans le ménage, plus les hommes sont moins violents. Les jeunes hommes sont moins violents, même s'ils restent quand même un peu plus violents que les autres catégories. Dans, dans leur même catégorie, ils sont plus violents que les autres hommes moins jeunes. Mais,
on pourrait dire agressif plus que violent, je pense.
Oui, ben, ils sont plus prompts à déployer des comportements.
Comme un violent, oui.
Oui. Puis, il y a quand même un fait que l'idée que le mariage domestique, l'homme sauvage, qui le rend et d'avoir une famille, aussi a un effet sur le comportement. L'homme se responsabilise beaucoup plus. Il y a un effet. Je m'en fous de ce que tu penses normativement de ça, mais positivement, dans les faits, là, c'est clair que le mariage et les enfants ont un effet sur la réduction des comportements agressifs. Ben, chez les hommes.
Je vais reprendre une manière de Peterson, de Jordan Peterson, de l'amener, puis je pense que tu vas l'apprécier. Il dit, si tu prends un homme puis une femme dans la population générale, puis tu te poses comme question, lequel est le plus agressif entre les deux? Si tu dis la femme, tu as 40% de chances d'avoir raison, grosso modo. Ce qui fait que, quand tu regardes l'homme médian puis la femme médian, ils sont quand même proches un de l'autre en termes de déploiement d'agressivité. Quand tu t'en vas dans les extrêmes, tu te ramasses dans une situation où est-ce que les prisons sont remplies d'hommes.
Yep.
Donc, si tu détermines... T'sais, est-ce que... Puis c'était le fun parce que la discussion était avec Joe Rogan dans ce temps-là. Fait qu'il a amené le UFC là-dedans. Est-ce qu'une femme qui fait du UFC, qui est championne du monde de UFC, est plus agressive que la majorité des hommes? Définitivement. Par contre, le moins bon fighter de la UFC, Collison, une volée pareille.
Effectivement. Écoute, pour mon entraînement de vie de garçon, on était allé à un match de boxe. Puis il y avait une section dans le match. C'était plusieurs matchs au Casino de Montréal. Puis il y avait un match, fille contre fille. C'était vraiment intense. Mais tu voyais que la force physique déployée était inférieure, qu'il y avait plus d'hésitation. Pas d'hésitation, mais qu'il y avait plus de forward thinking. Puis moins d'attaque.
Je dirais qu'un match de UFC féminin finit probablement moins souvent que des knockouts, mais avec beaucoup plus de sang. Dans le sens que, tu sais, souvent, une des raisons pourquoi un combat masculin va avoir un peu moins de sang qu'un combat féminin, c'est que le knockout arrive plus vite. Tandis que avec une femme, le knockout arrive moins vite, mais l'agression est quand même là. Donc, il y a beaucoup plus de coupures, beaucoup plus de blessures au visage ou des choses comme ça. Donc, qui amène pas le knockout, mais qui amène une usure sur le corps vraiment très, très, très importante qui déforme le visage de l'adversaire.
J'aimerais ça, par exemple, voir s'il y a des papiers scientifiques qui regardent la performance, la durée d'une carrière, toutes choses étant égales par ailleurs, pour une femme. Et les résultats de santé pour cette femme-là relativement à un homme, toutes choses étant égales par ailleurs. Tu vois, par exemple, je ne serais pas surpris qu'on voit que la post-carrière est peut-être plus courte qu'une femme parce que ça impose des coûts plus importants sur le physique. Ou... Je suis sûr qu'il y aurait plein de différences comme ça que tu pourrais voir.
Moi, je pense qu'il y a plus de blessures au cerveau chez les hommes. Que chez les femmes, probablement.
Oui, mais tu veux tenir compte aussi, par exemple, du fait qu'il y a juste des hommes. Le football, par exemple, parce que la plupart des problèmes de commotion cérébrale se produisent. Football américain, là, pas le football européen, le vrai football.